Bien, je vais évidemment commencer par remercier Manon et Denis Barranger de m'avoir convié à ce colloque. Je suis là dans le panel consacré à la critique du constitutionnalisme global, peut-être en partie parce que il m'est arrivé dans le passé de critiquer une thèse qui a eu un certain succès à un moment, qui est la question du pluralisme ordonné. Mais je n'ai pas voulu reprendre ce thème à nouveau. Et j'ai tenté de travailler sur un thème qui est, d'utiliser un peu un travail en cours sur la question de la proportionnalité. Et je dois évidemment tout de suite confesser que c'est un sujet énorme sur lequel je risque bien évidemment de décevoir beaucoup d'entre vous. J'ai appris il y a 5 minutes ou 10 minutes que éventuellement il y avait une question que se posait une de mes chères collègues et à laquelle je n'ai aucune réponse. En fait, la question de la proportionnalité est une question très difficile puisque elle est extrêmement traitée. Elle est traitée du point de vue justement du constitutionnalisme global et elle est traitée également du point de vue du droit constitutionnel classique et elle donne lieu à des travaux à peu près quotidiens. Je n'ai pas compté, mais on pourrait presque avoir l'impression qu'il se publie un livre par jour sur la question de la proportionnalité. Littérature qui est justement, et c'est très intéressant, très largement le fait des promoteurs ou en tout cas des adeptes du constitutionnalisme global. Alors je n'ai malheureusement pas eu la chance de disposer de suffisamment de temps chaque jour pour lire chaque livre qui sortait et vous faire un petit florilège des différentes thèses. Et la difficulté a été, bien sûr, d'essayer de naviguer un peu à travers la littérature très foisonnante. Ce qui ressort, ce qui frappe, dès lors qu'on s'intéresse à la question de la proportionnalité, outre sa dimension quantitative, c'est en effet la puissance avec laquelle la proportionnalité a en quelque sorte pénétrer le droit constitutionnel classique et dans un mouvement global. Et j'ai dans un premier temps cherché à essayer de voir si on pouvait trouver une explication au succès considérable de ce principe dans la littérature juridique et notamment constitutionnaliste. Mais la tâche est assez difficile, elle est même immense, et j'ai dû réduire considérablement mes ambitions pour tenter de montrer à quel point, en fait, la proportionnalité, le thème de la proportionnalité, le discours sur la proportionnalité, et pas seulement les jugements de proportionnalité, c'est ici une distinction importante, à quel point ce discours de la proportionnalité remet en cause les concepts du constitutionnalisme classique et en fait est une sorte, à mon sens, de peut-être le fer de lance du constitutionnalisme global quand il s'agit de penser l'articulation entre droit et politique et notamment, évidemment, la place des juridictions. On peut donner une définition assez simple du principe de proportionnalité. Je ne rentrerai pas ici dans tout le détail des jurisprudences complexes d'application de ce principe, même si j'essaierai éventuellement d'en dire quelques mots si j'ai le temps. Mais, bon, schématiquement, ce principe prescrit qu'en cas de conflit entre deux objectifs normatifs fondamentaux, X et Y, maintien de l'ordre public et les droits des droits ou libertés, ou la liberté d'expression et la vie privée. Donc lorsqu'on ne peut satisfaire l'un qu'au détriment de l'autre, eh bien l'écart que l'on consent par rapport à l'objectif X doit être proportionné au, au rapprochement que l'on obtient par rapport à l'objectif Y. Et donc, une légère amélioration dans le maintien de l'ordre public ne peut justifier une atteinte grave aux libertés individuelles. Et ce principe est complété par d'autres autres exigences, que la décision, si s'écarte d'un objectif, conduise effectivement à mieux satisfaire l'autre et qu'elle soit le seul moyen de produire cette meilleure satisfaction. Et dans certaines versions, on peut ajouter encore une exigence qui serait que parmi les mesures s'approchant le mieux de Y, par exemple, tout en s'écartant de X, on choisit celle qui s'écarte le moins de X. Donc le principe utilise en général un tout petit nombre de gradations et les écarts comme les rapprochements sont rangés en, en trois catégories, majeur, modéré, léger. Bien sûr, le mot proportionnalité lui-même, que l'on explique de manière schématique ainsi, et, est en fait lui-même, que disais-je, un peu ambigu, puisque ce mot peut désigner aussi, dans certains cas, une opération très précise ou un ensemble d'opérations. Et évidemment, on doit ici se référer à la jurisprudence allemande, qui est à l'origine de la diffusion de ce principe en droit constitutionnel. Mais le fait est qu'on continue à distinguer deux conceptions possibles de cette proportionnalité. Une approche qu'on appelle triadique, donc, allemande, où on va enquêter d'abord sur la qualité des moyens au regard de la fin. Telle sanction permet-elle d'atteindre telle finalité, tel moyen dont on attend un résultat avantageux est-il justifié au regard des inconvénients? Et puis ensuite, on va réfléchir effectivement donc à la nécessité de ce moyen, puis on va pondérer, n'est-ce pas, les deux principes qui sont en cause. Et puis, le mot proportionnalité, comme vous le savez, peut ne se référer qu'à cette dernière opération, cette opération de balancement ou de balancing, comme on dit en anglais. La jurisprudence allemande est une jurisprudence de référence évidente. C'est elle qui est censée avoir, en quelque sorte, transmis, exporté, comme le disait Anne, ce concept de proportionnalité, avec une jurisprudence qui se développe au début des années 50, en plusieurs étapes sur lesquelles je ne vais pas revenir. Je me permets, ou plutôt j'ai eu la naïveté de penser que tout ça était très très connu, mais c'est tellement documenté que je vous fais grâce des différentes jurisprudences dans laquelle s'est construite ce principe de proportionnalité et où aussi on a construit sa référence parce que, encore une fois, ce principe n'est pas en tant que tel inscrit, même si la Cour a cherché à dire qu'il était évidemment dans la Constitution et qu'elle n'avait rien inventé. La référence allemande est importante également pour la dimension conceptuelle, en ce que, par ce principe de proportionnalité, la Cour a transformé les droits fondamentaux qui étaient initialement pensés comme des droits subjectifs en des principes objectifs. Et c'est le point central, capital, pour lequel j'ai fait ce lien entre, évidemment, constitutionnalisme global, raisonnement juridique et principe de proportionnalité. Lorsqu'un droit fondamental est pensé comme un droit subjectif, il confère un droit à des individus, qui doit être respecté par l'État et permettre à l'individu d'exercer ses libertés. Mais quand il est pensé comme un principe objectif, alors il devient une maxime d'organisation de la vie sociale. Un des grands critiques de la conception allemande objectiviste de la proportionnalité, qui est Bernhard Schlink, explique à travers un exemple très simple la différence. Comme droit subjectif, si on pense la liberté de la presse ou de communication, eh bien, cette liberté garantit individuellement aux citoyens le droit d'imprimer, de publier, de diffuser. Si on la pense comme un principe objectif, cette liberté de presse ou cette liberté de communication, ou les deux, exigent que le législateur réglemente les publications et les transmissions de sorte à permettre à autant de citoyens que possible de s'exprimer ou de voir exprimer leurs opinions et inclinaisons et de satisfaire leurs besoins d'information. Donc, comme principe, cette liberté demande une organisation et cette organisation donnera lieu à une législation qui, elle-même, en fait, sera contrôlée, évidemment, au regard des trois éléments que j'ai indiqués, l'adéquation, la nécessité et l'équilibre que cette loi permet de réaliser. Alors, pourquoi parler d'un empire de la proportionnalité? Pourquoi considérer que cette jurisprudence-là a une dimension en quelque sorte impérialiste? Eh bien, parce que, en fait, comme vous le comprenez très bien, si la Cour se met à ou transforme des droits subjectifs en principes objectifs, cela provoque évidemment un changement considérable dans la fonction de la Cour constitutionnelle. Elle ne se pense plus comme devant seulement préserver des libertés individuelles, mais elle se pense comme un forum additionnel, en quelque sorte, au traitement des problèmes politiques et sociaux. Elle change aussi de méthodologie, puisque difficile, encore une fois, de délibérer sur des questions politiques avec des syllogismes. Et c'est là que se joue quelque chose de très important pour le constitutionnalisme. C'est que, comme l'ont très bien exprimé dans un article absolument remarquable, auquel malheureusement je n'ai rien à ajouter, parce que c'est un petit article d'une centaine de pages de Alex Stonesweet et Aline Matthews, un article de 2010 tout à fait impressionnant. En fait, le premier impact très évident du principe de proportionnalité, c'est que ça transforme les juges en législateurs positifs. C'est assez banal peut-être de le dire, mais ce n'était pas du tout la conception que l'on pouvait imaginer du législateur négatif tel que Kelsen se représentait une cour lorsqu'il écrivait sa garantie juridictionnelle de la Constitution. Et Kelsen avait parfaitement anticipé ce bouleversement que peut entraîner la transformation ou l'utilisation par des juges de catalogues de droits fondamentaux, quand il expliquait que, bien évidemment, ces catalogues de droits fondamentaux qui figurent dans des constitutions ne doivent surtout pas être utilisés par des juges, car ce sont des catalogues rédigés en termes extrêmement indéterminés, extrêmement vagues, qui renvoient à des termes de valeur, et ces termes de valeur n'ont pas de définition fixe, de sorte que celui qui va les utiliser ou qui va devoir, ou qui imaginera les appliquer à un cas, eh bien, devra lui-même définir ses valeurs et donc substituer ses propres valeurs à celles que le législateur est censé exprimer. Donc, si on laisse les juges manipuler les valeurs, évidemment, on en fait des législateurs positifs. Mais en même temps, la proportionnalité est apparue comme, au fond, une excellente réponse, peut-être la meilleure réponse possible au défi que représentent les jugements qui visent à trancher des conflits entre droits fondamentaux. Et elle offre aux juges, en quelque sorte, une solution en apparence rationnelle aux dilemmes insolubles que génère l'usage de leur pouvoir créateur. Et pour eux, d'ailleurs, la proportionnalité permet d'atteindre au moins deux buts, c'est-à-dire gérer, comme ils le disent, des environnements potentiellement explosifs compte tenu de la nature politiquement très sensible du contrôle des droits, et puis établir et renforcer l'importance de la délibération et du jugement dans un système politique élargi. Mais un système politique à l'intérieur duquel, évidemment, figurent les juges constitutionnels, et qui doivent être ou se reconnaissent souvent comme tels et doivent aujourd'hui être reconnus comme tels par les constitutionnalistes qui s'intéressent évidemment au conscientisme globalisé. Cette thèse me semble assez peu contestable. Elle est d'ailleurs très peu contestée, à dire vrai. C'est également un des thèmes très puissants du conscientisme global que d'admettre qu'en effet, dans le forum politique, il faut compter avec les juges constitutionnels. Et cette thèse s'appuie sur une autre très connue, dont certains spécialistes se trouvent dans cette salle, c'est évidemment la thèse de Robert Alexis, qui a non seulement une thèse très complexe de calcul du poids des principes, que je ne vais pas vous exposer en détail, mais que je vais tenter de vous résumer brièvement pour ensuite en faire une petite critique, mais une thèse à laquelle il a ajouté un autre volet, un volet très intéressant, qui est l'idée que les juges constitutionnels sont des représentants, non pas des représentants électifs, des représentants argumentatifs. Et cette thèse de l'argumentation représentative, de la représentation argumentative pardon, des juges constitutionnels découle évidemment très logiquement de la construction de la théorie d'Alexis. Théorie d'Alexis qui, encore une fois, j'en parle ici non pas parce que j'ai une passion folle pour Alexis, qui est un immense juriste, parce que tout simplement Alexis fait partie de ces auteurs qui sont cités presque dans toutes les décisions de la Cour constitutionnelle, enfin du Tribunal fédéral brésilien, de la Cour colombienne, qui sont cités par tous les constitutionnalistes qui s'intéressent aux questions de droit constitutionnel en général. Quand je me limite à l'Amérique latine pour la Colombie et le Brésil, mais à dire vrai, la liste pourrait être très longue des juges qui non seulement citent Robert Alexis, se réclament de la théorie de Robert Alexis, mais invitent Robert Alexis à participer à leur discussion, à leur forum quand ils les organisent, et c'est notamment le cas de la Cour brésilienne, du tribunal brésilien. La thèse d'Alexis est un peu longue à exposer en détail, il est déjà un peu tard. Je vais me concentrer sur quelques points, sur l'articulation de cette thèse. Elle repose sur l'idée que les droits fondamentaux sont au fondement du jugement de constitutionnalité et sont en fait évidemment une conséquence des droits de l'homme. Et que les droits de l'homme eux-mêmes dépendent de la nature discursive des êtres humains, ce qui implique une importance considérable des principes qu'expriment ces droits, lesquels principes ont une nature morale. Et les principes moraux sont eux-mêmes susceptibles d'une connaissance objective. Et cette connaissance objective peut être atteinte à travers le discours rationnel et la pratique de ce discours rationnel est absolument essentielle, sinon il n'y aurait tout simplement pas de rationalité pratique. Et le discours rationnel lui-même permet au cours d'identifier les injustices extrêmes. On trouve ici un héritage, évidemment, de la thèse de Radbruch. Et l'extrême injustice ne peut pas être, évidemment, du droit, parce qu'aucun système ne le permet, parce qu'en fait, tout système juridique inclut une prétention à une forme de justesse, de correctness. Et par ailleurs, dans un État constitutionnel, eh bien, cette extrême injustice est pratiquement impossible parce que précisément, il y a un espace pour les cours constitutionnels dans l'interprétation et l'application de ces principes fondamentaux, de sorte que la justice constitutionnelle est une solution juridique et on peut parvenir à cette solution à travers la fameuse formule du poids, dont je vais vous faire grâce, car je sens qu'il est tard, qu'il fait très chaud et que vous n'en avez pas un besoin impérieux. Mais il reste que cette formule du poids est évidemment centrale. Pourquoi ? Elle est centrale d'abord parce que elle laisse entendre que l'on peut arriver, que les juges, par leur délibération et leur balancing, peuvent arriver à des solutions qui sont objectivement justes. Et en même temps, elle est centrale pour une raison très simple, parce qu'elle est vraiment le talon d'Achille de la théorie d'Alexis, dans la mesure où il affecte un poids aux différents principes qui doivent être balancés par les juges, mais il ne nous donne jamais la clé qui nous permet de connaître à l'avance le poids dont sont investis ces différents principes. Autrement dit, tout le raisonnement repose sur l'idée d'une connaissance de principes moraux, jusqu'à cet élément qui manque, cet élément un peu groutenormien. On ne sait pas pourquoi et comment ces principes moraux que l'on mettra en balance pourront en effet on ne pourra pas connaître à l'avance la clé de répartition en quelque sorte des poids entre ces principes. De sorte que cette question en fait de la définition des critères reste une question qui n'a pas de dimension objective, et nous ne pouvons pas arriver à sortir du cercle dans lequel nous enferme la démarche d'Alexis. Parce qu'au fond, ça revient à dire que c'est le discours rationnel lui-même qui décrit le lieu où s'échangent les bons arguments, et ces bons arguments sont ceux qui peuvent être donnés à propos d'une solution, laquelle solution sera trouvée à partir du discours rationnel avec des bons arguments. Bon. Et alors ? Le problème, c'est que, encore une fois, lorsque deux principes sont en conflit, de deux choses l'une, soit on sait à l'avance quel est le poids d'un des deux qui nous permet de trancher la question, soit en fait on admet que les deux principes ont la même valeur et qu'en fait il n'y a pas de méthode fiable pour établir une fois pour toutes une différence de valeur entre ces deux principes. Et c'est précisément d'ailleurs ce que contestent ceux qui le font, ceux qui contestent la proportionnalité. C'est-à-dire que ça livre évidemment au juge un dilemme qui est un dilemme moral, et ça transforme les juges en quelque sorte évidemment en autorité morale. Mais la conséquence qu'en tire Alexis, c'est encore une fois que c'est pas grave parce que en fait il y a un discours rationnel, et ces juges sont eux-mêmes des représentants argumentatif qui se situe à un niveau de discussion et de discours rationnel tel que on peut parvenir à une argumentation qui soit juste. Et je le cite, les conditions d'une vraie représentation argumentative sont qu'elle doit être connectée à ce que pensent les individus. Il est nécessaire que les cours affirment que leurs arguments sont ceux de la population, mais aussi qu'un nombre suffisant de personnes puissent accepter ces arguments. Et ces personnes, ce sont des personnes rationnelles. Mais on ne sait pas, en fait, on ne sait jamais quelle est la définition exacte de la rationalité que nous donnera Alexis. Or, il n'y a pas, comme vous le savez, il n'y a pas de définition rationnelle, ou il n'y a pas de principe qui soit rationnel, ou disons même de solution qui soit rationnelle en soi. Une solution est rationnelle en fonction d'un certain système qui permet de la produire. Et le système en question, c'est en fait un système de contrôle de constitutionnalité où ces juges se trouvent en quelque sorte placés hors sol, placés dans une situation où ils n'ont en fait aucun compte à rendre, parce que ce sont eux seulement qui pourront définir si les personnes auxquelles, éventuellement, dont ils expriment les arguments rationnels sont elles-mêmes rationnelles. Donc, le premier impact, ou un des premiers impacts du principe de proportionnalité, du point de vue du raisonnement juridique, c'est de transformer, comme je le disais, les juges en législateurs positifs. Le deuxième impact, si je puis dire, c'est au fond de nous contraindre ou de nous conduire vers une certaine théorie de la démocratie qui est une démocratie délibérative. Mais je sens que je commence à devenir un peu long. Cette thèse est très largement diffusée également dans le constitutionnalisme global. Et elle est, elle intervient notamment dans l'idée qu'au fond, le principe de proportionnalité, si on essaye de penser les raisons pour lesquelles ce principe se diffuse autant et avec une telle vitesse, indépendamment, je le dis tout de suite en caveat, mais je n'aurai pas du tout le temps de le traiter, indépendamment de toutes les très grandes différences, notamment en termes d'intensité d'utilisation de ce contrôle, indépendamment de ces différences, disais-je, j'essaierai de le traiter dans le papier. Une des raisons pour lesquelles ce principe se diffuse, eh bien, c'est que nous sommes entrés dans la culture de la justification. Et une culture de la justification qui conduit évidemment assez rapidement à une démocratie qui n'est plus du tout la démocratie représentative, mais bien évidemment une démocratie délibérative. Cette thèse de la culture de la justification est très largement défendue, notamment par Moshe Cohen Elat et Ido Porat, dans un livre relativement récent. Leur idée, c'est que la proportionnalité ne peut se comprendre que dans ce contexte d'une culture de la justification, dont la définition est que, tout simplement, s'exerce tout pouvoir, ou tout exercice du pouvoir, est supposé être justifié, ou celui qui détient une autorité justifie ses décisions par leur cohérence et jamais par la peur que pourrait inspirer son commandement. Autrement dit, un nouvel ordre juridique doit être construit sur la persuasion et non sur la coercition. C'est un peu une forme d'éducation des enfants à l'allemande. Et avec les quelques inconvénients que quelques parents ici peut-être ont déjà rencontrés. Alors, cette thèse sur laquelle je vais essayer de ne pas être trop long, mais sur laquelle je voudrais quand même revenir, a le mérite d'une forme de simplicité, puisqu'on opposera une forme de culture de l'autorité à une culture de la justification. Et ainsi, par exemple, dans la culture de l'autorité, au fond, le constitutionnalisme d'hier, le contrôle de constitutionnalité a vocation à maintenir des organes dans leur sphère de compétences et d'action, mais l'autorité elle-même, les organes en question, n'ont pas à justifier leurs actions, simplement à identifier le fondement de leurs compétences. En revanche, dans la culture de la justification, le constitutionnalisme d'aujourd'hui, global, toute action gouvernementale doit justifier ses actions et les exceptions peuvent exister, on peut envisager une marge d'appréciation. Mais ce ne sont que des exceptions et, dans l'idéal, aucun angle mort n'est envisageable. Alors cette thèse, qui est loin d'être un élément de la thèse, c'est un élément qui est très facile à saisir. Effectivement, ça répond là aussi, pour reprendre un peu une distinction qu'évoquait Denis tout à l'heure entre le discours et le phénomène. Il y a ce discours-là, décrit un phénomène que nous connaissons très bien, en effet, nous savons, nous, Européens, si je puis dire, indépendamment des Brexiteux, que nous savons que, de plus en plus, les autorités sont soumises à une justification, et nous la voyons, cette exigence de justification, nous la voyons en droit constitutionnel, mais aussi dans les autres droits. De même, l'autre élément de cette culture de la justification, c'est évidemment la signification des droits. Les droits ne sont pas perçus de la même façon dans une culture de l'autorité, ce sont des limites. et donc au fond des droits subjectifs faibles, tandis que dans une culture de la justification, ce sont des valeurs qu'il faut promouvoir. Et bon, c'est pas étonnant d'ailleurs, évidemment, la référence immédiate, c'est à la fois la jurisprudence allemande et la thèse d'Alexis qui conçoit ces principes comme devant être optimisés. Une remarque malgré tout, c'est que cette signification des droits a des conséquences en réalité sur l'ordre juridique en général. De nombreuses cours, et je pense à nouveau à la Cour brésilienne, ne se contentent pas d'introduire la proportionnalité uniquement pour des droits fondamentaux et pour mettre en balance ces droits fondamentaux. Elle utilise aussi ce contrôle de proportionnalité pour créer des normes qu'on appellerait défaisables, pour créer des exceptions à des normes et pour donc faire surgir une antinomie que l'on va résoudre à travers le contrôle de proportionnalité. Et comme j'ai déjà trop parlé, je vais aller directement à une conclusion que je vais, si vous me permettez, tenter d'exprimer le plus simplement possible. En fait, le principe de proportionnalité détruit pas seulement cette idée d'un législateur négatif que seraient les cours constitutionnelles. En fait, il détruit la notion même de séparation des pouvoirs. Puisque si on s'intéresse ensuite, par exemple, à d'autres organismes que sont pas seulement les cours constitutionnels, mais l'Union européenne ou les organismes internationaux dont nous parlons, en fait, ces organismes mêmes sont soumis à cette exigence de justification, mais ces organismes, en fait, cumulent tous les pouvoirs. Et par ailleurs, dès lors que le juge est un législateur positif, on n'a plus de raison de penser en termes de séparation des pouvoirs. Donc cette proportionnalité est en quelque sorte le canal par lequel on bouleverse évidemment toutes les conclusions, toutes les catégories classiques. Et à mon sens, il n'est pas du tout étonnant que ce principe de proportionnalité soit aujourd'hui évidemment l'objet qui fascine le constitutionnalisme global. Merci.